Je vous propose une lecture dans la première épître à Timothée. 1 Timothée, chapitre 6. Nous lirons le chapitre pour obtenir le contexte. Que tous les esclaves qui sont sous le joug estiment leur propre maître digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, et que ceux qui ont des maîtres croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant plus que ceux qui profitent de leur bon et prompt service sont des fidèles et des bien-aimés. Enseigne ces choses et exhorte. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celle que notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or, la piété, avec le contentement, est un grand gain. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant Dieu, qui appelle toutes choses à l'existence, et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ses commandements, sans tache, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel, le bienheureux et seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre. Lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir, qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner, libéraux, s'amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié, fuyant les discours vains et profanes et l'opposition de la connaissance faussement ainsi nommée, de laquelle quelques-uns faisant profession se sont écartés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Comme toujours, la parole de Dieu est d'une richesse qui nous dépasse de loin. Et nous ne pouvons en tirer que quelques pensées à la fois, parce que nous sommes très limités. Il y a ici un enseignement qui est donné de l'apôtre Paul dans les derniers jours de sa vie, dans les épîtres à Timothée, où il parle de la piété et il parle du gain. Et j'aimerais attirer l'attention sur ce verset en particulier. La piété avec le contentement est un grand gain. Alors qu'est-ce que c'est que la piété ? La piété, c'est respecter l'enseignement de Dieu, le mettre en pratique. La piété, c'est mettre en pratique, utiliser ce que Dieu nous a confié. Fidèlement, avec un cœur droit devant Dieu. La piété, c'est je reçois telle chose de la part de Dieu, je l'utilise pour sa gloire à lui. Que ce soit un bien spirituel, je reçois par exemple tel enseignement de la part de Dieu et je le mets en pratique. Ça, c'est la piété pour lui, pour qu'il soit glorifié au travers de ma vie. Si c'est le cas, alors je suis un homme pieux. Mais aussi matériel, on pourrait dire. Si je reçois des biens, c'est pour les mettre en pratique, pour les utiliser, pour sa gloire à lui. On l'a lu dans le reste du chapitre aussi, que ceux qui sont riches dans le présent siècle, qu'ils ne soient pas hautains. Si Dieu me donne des richesses matérielles, c'est par grâce. Ce n'est pas parce que je le mérite plus qu'un frère qui se trouve dans un autre pays où il est pauvre. C'est par grâce. Il est dit ici qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais qu'ils soient riches en bonnes œuvres. Si je reçois des biens matériels, ça me permet aussi de faire des bonnes œuvres. Par conscience envers Dieu, par piété dans mon cœur. Alors ce qui est très important, on trouve beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses dans ce monde, même dans la chrétienté, mais tout est déjà écrit dans la parole de Dieu pour répondre aux débordements, aux déviations, pour répondre aux faux enseignements. Ici, par exemple, il nous est parlé de personnes qui sont enflées d'orgueil, ne sachant rien, verset 4, ayant la maladie des questions, des disputes de mots. Et il est dit, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement, privés de la vérité. Ça peut même arriver dans la chrétienté. On entre dans des débats, on fait de la philosophie religieuse. Mais ce qui est important ici, par exemple, dans ce qui nous concerne du sujet, c'est qu'ils estiment la piété est une source de gain, matériel entendu ici. La piété est une source de gain. Et on entend, par exemple, dans l'évangile de la prospérité, que si on est pieux, si on est fidèle à Dieu, eh bien, alors Dieu nous donne des biens matériels. Nous donne une bonne santé, comme un dû de la part de Dieu, si nous faisons ce qu'il dit. Ça, c'est contraire à l'enseignement général des Écritures, du Nouveau Testament en tout cas. La piété n'est pas une source de bien matériel. Celui qui sert le Seigneur Jésus, on le trouve d'ailleurs dans le Nouveau Testament, dans l'enseignement des Évangiles et du Seigneur Jésus, lorsqu'il rencontre ce jeune homme riche, qu'est-ce qu'il lui dit ? Ah, le jeune homme riche, il lui dit, mais moi je suis pieux, je suis toutes les règles de la loi, de la religion. Et le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Qu'est-ce qui lui manque ? Il lui dit, tu vends tout ce que tu as et tu me suis. Et qu'est-ce qu'il nous est dit quant à ce jeune homme ? Il a arrêté de suivre le Seigneur Jésus, il s'en alla tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens matériels et il y tenait beaucoup. Ces biens matériels, c'est pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur ne dit pas, si tu me suis, alors tu en auras encore plus. Il lui dit, pour me suivre, moi, tu dois être capable d'abandonner tout le reste, même les biens matériels et l'argent et tout ce que tu possèdes. Et le Seigneur nous demande ça. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le Seigneur Jésus, quand il est venu comme homme sur la terre, n'est pas venu pour amasser des biens matériels. Il n'avait même pas de poche. Il portait une tunique, une robe sans couture. Et lorsqu'il faut montrer à ses opposants une pièce de monnaie, il demande « Avez-vous une pièce ?»« Rendez à César ce qui appartient à César et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Et lorsqu'il s'agit de payer une taxe pour passer son chemin, il demande à Pierre d'aller pêcher un poisson dans lequel il va trouver une pièce pour payer la taxe. Vous voyez, le Seigneur Jésus est l'exemple de l'homme l'homme parfaitement dépendant de Dieu, qui ne met pas sa confiance dans les biens matériels pour poursuivre son chemin. Alors, le Seigneur Jésus, comme homme aussi, pour nous, il est l'exemple, mais il est aussi la source de tout bien spirituel. Et donc, l'enseignement des Écritures, d'ailleurs, si nous nous tournons vers Matthieu 13, qui est l'enseignement du royaume, qui nous concerne en tant que chrétiens, pour notre vie personnelle. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans 1 Timothée 6, la belle confession. Dans Matthieu 13, nous voyons là qu'il y a de la semence qui est répandue par le semeur. Et il est dit au verset 22, Matthieu 13, verset 22, « Et celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole et les soucis de ce siècle et la tromperie des richesses étouffe la parole et il est sans fruit. » Vous voyez ici cette expression ? La parole est semée, il y a des personnes qui entendent la véritable parole de Dieu, mais il y a ces épines et ils ne portent pas de fruits parce que, et ces épines sont comparées aux soucis de ce siècle et la tromperie des richesses. Parce que parfois on peut croire que nous allons résoudre les problèmes de notre vie si nous avons plus d'argent. Et alors on oublie d'incorporer Dieu dans notre pensée et dans la solution. Bien sûr, l'enseignement du royaume, il est donné aussi en Matthieu 6, où le Seigneur dit, lisons-le, nous avons besoin de biens matériels pour vivre ici-bas. Et le Seigneur sait toutes ces choses-là. Matthieu chapitre 6, on lira par exemple verset 26, ou même avant. Verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est le dieu de l'argent, le dieu des biens matériels. Ensuite, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Des soucis dont nous avons vu en Matthieu 13. On a des soucis. Hein. Qu'est-ce qu'on va manger ? Comment on va payer nos factures ? Comment on va payer ceci ou cela ? Comment on va payer ça dans les mois à venir ? Le Seigneur le sait. Il faut que notre cœur reste attaché à Dieu en s'attendant à lui. Parce qu'il y a cette tromperie des richesses en se disant « Je vais me tourner vers les richesses pour résoudre tous mes problèmes. » C'est une tromperie. C'est ce qu'on a lu. L'amour de l'argent est une source de toutes sortes de mal. Alors si nous continuons la lecture en Matthieu 6, « Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coulée à sa taille ? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement ? Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. » Qui est vêtu comme les rachetés de Dieu ? Là, je parle de bien spirituel. Qui est revêtu de Christ par grâce, gratuitement ? Qui a ses ressources au travers des épreuves telles que nous les avons en Christ ? Parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Même devant les difficultés, si nous sommes avec le Seigneur, nous avons la joie. La joie de la communion. Ça, c'est un trésor spirituel, par exemple. Alors, Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four. Ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi ? Ne soyez donc pas en souci disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus ? Car les nations recherchent toutes ces choses. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera un souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce qui est très important, c'est que chaque jour, nous recherchions la piété. Et ça ne veut pas dire que nous serons inactifs dans la vie pratique, mais au contraire, un homme pieux travaille, un homme pieux recherche ce qui est juste. Il ne cherche pas le gain honteux ou l'argent facile. Un homme pieux fait toute chose devant le regard du Seigneur, devant Dieu. La piété, le contentement est un grand gain. Est-ce que je suis satisfait de ce que Dieu me donne sur la terre? Est-ce que je suis satisfait d'avoir telle ou telle voiture ou telle maison? Ou je veux plus, je veux mieux, je veux plus d'objets qui m'entourent? Peut-être pas. Pourtant, si je pense à tout ce que Dieu m'a donné spirituellement, là je devrais être satisfait et content et heureux même et réjoui. Est-ce que je ne suis pas réjoui quand je pense au salut éternel de mon âme? Est-ce que je ne suis pas réjoui en pensant ce que Dieu m'a donné pour l'éternité, d'un prix inestimable, impossible à payer? Au lieu de me concentrer, de tourner mon cœur vers des choses matérielles qu'il faudra lâcher un jour. Ah, si je pensais plus souvent à ce que le Seigneur m'a donné. Si je pensais plus souvent à l'Esprit Saint que j'ai reçu et qui me conduit, qui me dirige, qui produit du fruit en moi. Alors là, le contentement n'est plus un problème. Si je lisais plus attentivement les Écritures pour y trouver la personne du Seigneur Jésus, mon cœur se réjouit. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait par le chemin? Oubliez, ils étaient tristes, ces deux disciples qui partaient vers Emmaüs. Ils étaient tristes. De quoi parlez-vous entre vous? Vous avez l'air triste. Vous êtes triste. Mais quand ils parlent du Seigneur, le cœur brûle. Alors le contentement, voilà. Le contentement, il vient quand on se rencontre un peu mieux de ce que nous avons reçu spirituellement. Alors les choses de la terre, elles pâlissent. Moins important d'avoir tel ou tel objet de telle marque ou de telle couleur. Quand on pense à ce que le Seigneur nous a donné. Ou à ce que le Seigneur désire nous donner encore, parce que c'est une source intarissable. Nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Et la vie est courte. La vie est courte. Et le Seigneur dit dans l'Évangile aussi, « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » C'est quoi ? C'est-à-dire la relation avec le Seigneur, qui lui se trouve dans le ciel. C'est ça le vrai trésor. C'est que ça qui donne la joie du cœur, la paix, même dans les troubles et dans les moments difficiles. C'est parce que le Seigneur est au ciel que nous pouvons avoir la paix dans le cœur devant une difficulté ou au travers d'une difficulté. Parce que nous savons qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il est au ciel pour nous et qu'il prie pour nous et qu'il intercède et qu'il nous parle. Il nous guide, il nous dirige. Ça, ce sont des vrais trésors. Il faut faire fructifier ces choses-là. On peut trouver parfois, essayer de trouver de la consolation dans les choses du monde. Et puis, le Seigneur dit, hein, donc dans le ciel où personne ne dérobe, personne ne peut voler ce que le Seigneur a pour nous dans le ciel. C'est inaccessible, inattaquable, on l'a entendu dans la prière, inattaquable. Mais sur la terre, je peux constituer un compte en banque, je peux me acheter beaucoup de biens matériels pour rendre ma vie plus facile, plus confortable, au risque d'oublier Dieu, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a des voleurs qui viennent prendre ce qui ne leur appartient pas, et puis voilà. Si on me l'a volé, je ne l'ai plus. J'avais pourtant investi beaucoup de temps, beaucoup d'années de ma vie à économiser pour ça. Ou bien une maison brûle, des biens matériels. L'incertitude, on l'a lu cette expression, l'incertitude des richesses de ce monde. Les richesses, les biens matériels sont utiles si on les met à la disposition du Seigneur dans notre vie. Mais le problème, ce ne sont pas les biens matériels, le problème, c'est l'amour. C'est d'attacher son cœur à ces choses-là. C'est ce que le passage nous dit. Il est dit, ceux qui veulent devenir riches, c'est au verset 9, ceux qui veulent devenir riches, on parle des biens matériels ici, tombent dans la tentation, dans un piège, plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. C'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. Ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Et l'avarice est un sujet très sensible. L'avarice est condamnable devant Dieu. Dieu condamne l'avarice de manière très stricte et très sévère. Vouloir garder les choses pour soi. Parce que si Dieu me donne de l'argent, par exemple, plus que ce dont j'ai besoin, par exemple, c'est pourquoi ? Pour l'accumuler ou pour l'utiliser ? Pour l'accumuler au cas où, parce que Dieu ne sera peut-être pas disponible quand j'aurai un besoin particulier, ou pour l'utiliser pour ceux qui en ont besoin et que je vois très bien qu'ils en ont besoin. Il y a ce principe d'égalité dans la parole de Dieu aussi, de partage. L'avarice, c'est clairement opposé au caractère de Dieu. Est-ce que Dieu a été avare ? Est-ce que Dieu a jamais été avare envers quiconque ? Qu'est-ce qu'il a donné Dieu ? Il a tout donné. Il est allé jusqu'à donner son propre fils en sacrifice. Pour qui ? Pour des gens qui le haïssaient, tels que nous, avant d'être touchés par la grâce. Le Seigneur, il est même dit dans les Écritures, des paroles même du Seigneur qui dit « Il est plus heureux de donner que de recevoir. » Il est plus heureux de donner que de recevoir. Voilà ce que le Seigneur Jésus est venu enseigner et pratiquer avant tout. Nous donner cet exemple. Il est plus béni de donner que de recevoir. Voilà le caractère de Dieu. Alors des exemples de gens qui ont voulu recevoir pour garder, on en a. D'ailleurs, il y a l'exemple de Judas. Pourtant, il était en contact avec le Seigneur Jésus. Il a marché tous les jours avec le Seigneur pendant plusieurs années. Il a vu, il a entendu, son cœur n'a pas changé. Il tenait la bourse. Et l'Écriture nous dit, car il était voleur. Il voulait cet argent pour lui. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit les véritables serviteurs de Dieu ne sont pas avares, même s'ils sont riches. On voit par exemple Abraham. Abraham s'investit pour délivrer Lot et par la même occasion tout le peuple de la ville. Et puis le roi de cette ville lui dit « Prends les biens, donne-moi les âmes. » Il est prêt là, ce jour-là, à recevoir tous les biens d'une ville entière, les biens matériels. Il dit non. Ce n'est pas le monde qui doit m'enrichir, c'est Dieu qui doit m'enrichir. Je ne prendrai rien. Il avait le cœur honnête et droit devant Dieu. Il ne voulait pas recevoir ce que le monde peut ou veut nous donner. Parce que si je m'enrichis dans ce monde, même en étant croyant, est-ce que vraiment c'est Dieu qui me le donne ? Ou est-ce que c'est le monde qui me le donne ? Il faut du discernement dans sa propre vie spirituelle. à savoir, est-ce que j'ai fait ça et Dieu me donne ça pour que, parce que j'en ai besoin, ou est-ce que c'est le monde qui veut m'acheter? Parce que le monde achète les âmes, c'est pas nouveau. Satan a même essayé avec la personne du Seigneur Jésus au désert. Il amène le Seigneur Jésus, il lui dit, regarde, je te donnerai tout. Regarde le monde, je te le donne, si tu te prosternes devant moi. Le Seigneur dit non. Nous n'avons rien à recevoir de Satan. Il faut être patient et attendre que ce soit Dieu qui le donne. Notre impatience, peut-être, dans une carrière professionnelle, peut nous pousser dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu, en pensant ou en voulant croire que c'est Dieu qui nous montre cette occasion de nous enrichir. Il y avait le jeune homme d'Élysée. Mais avant ça, on va peut-être prendre l'exemple d'Achan. Voilà, il y a Jéricho, il y a la ville, et Dieu avait dit, vous allez détruire la ville. Enfin, je vais détruire la ville pour vous. Et surtout, ne prenez rien. Il ne faut rien prendre dans cette ville. Elle représente le monde. Puis, il y a un grand problème. Il y a quelqu'un qui a caché, qui a pris des biens matériels dans Jéricho, au lieu de les brûler, de les détruire, il les a cachés dans sa tente, dans sa maison. Donc, il y avait cette avidité de vouloir prendre quelque chose du monde pour soi, mais qui ne convient pas devant Dieu. C'est un grand problème. Quand c'est un chef de famille, quand c'est un père ou une mère qui fait ça, toute la famille va tomber. Toute la famille tombe dans ce piège. On a la responsabilité en tant que parents ou grands-parents de montrer ça à nos enfants, que nous ne faisons pas n'importe quoi pour obtenir des biens du monde. En plus, il y a aussi le cas de Géasi, où Élisée va guérir Naaman de sa lèpre, et puis Naaman veut l'enrichir de biens matériels. Mais surtout, l'homme de Dieu dit non, 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 c'est gratuit. Ce qui vient de Dieu est gratuit. Je ne peux pas prendre des biens, de l'argent, pour quelque chose que Dieu donne gratuitement. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de fausses pensées à ce sujet. Mais le jeune homme, là, quand on est jeune, parfois, on vit aussi de choses qu'on voit. Ce n'est pas que quand on est jeune. Mais... Et lui, il rebrousse chemin, et il va mentir, il va dire, mon maître a dit quand même, on peut lui donner quelque chose. Il va le prendre pour lui. Mais ce qui est caché, Élisée au départ ne sait pas humainement que son jeune homme ment et pêche. Mais Dieu, devant Dieu, tout est révélé. Tout comme dans le cas d'Achan. Devant Dieu, tout est révélé. Et puis, la lèpre d'un amant va tomber sur Géasi parce qu'il a voulu s'accaparer des biens. Vous voyez, ce sont des exemples pratiques de ce qui est écrit ici. La ruine, la perdition, racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent. On peut parfois négliger les biens spirituels parce qu'on recherche l'argent. Et pas que l'argent d'ailleurs, ou la gloire personnelle, ou toutes sortes de choses, s'élever dans le monde, l'orgueil de la vie. Alors, mets-toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Quand on est appelé homme de Dieu, quand on utilise le nom de Dieu, on ne s'assimile pas et on ne se conforme pas à l'esprit du monde. Alors je vais lire encore un passage avant de terminer, en Philippiens 4, au verset 10. Je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant enfin vous avez fait revivre votre pensée pour moi, quoique vous y ayez bien aussi pensé, mais l'occasion vous manquait, moi que je parle, ayant égard à des privations, car moi, j'ai appris à être content en moi-même, dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. » L'apôtre Paul dit ici des choses très utiles pour notre vie pratique. Alors, il faut toujours voir le contexte. Au-dessus, versets 8-9, il parle des choses qui sont vraies, les choses qui sont vénérables, les choses qui sont justes, les choses qui sont pures, les choses qui sont aimables, les choses qui sont de bonne renommée. Il parle de Christ, il parle des vertus de Christ. Ça, ce sont nos trésors spirituels que nous pouvons obtenir en abondance, sans limite. Il dit ce que vous avez appris, que ces choses occupent vos pensées. Et ce n'est que dans cette mesure-là, où nous sommes occupés des pensées qui concernent Dieu, que nous apprendrons à être contents, dans l'abondance ou dans les privations matérielles. Alors, dans l'abondance, on pourrait se dire, forcément, on est content dans l'abondance. Non. Parce que quand on recherche les biens matériels, même quand on en a beaucoup, on n'est pas encore satisfait. Parce qu'on en veut plus. C'est toujours un peu plus. Et le cœur naturel de l'homme ne se satisfait pas d'avoir telle ou telle somme d'argent, parce qu'une fois que, si j'ai atteint cet objectif, mon objectif change. Il va encore plus loin. Donc, ce n'est pas facile d'être satisfait dans l'abondance. Et dans les privations, il faut s'attendre au Seigneur. On l'a lu en Matthieu 6, le Seigneur sait, Dieu sait. Peut-être que j'ai besoin de ça, mais peut-être que je n'en ai pas vraiment besoin. Je crois en avoir besoin. Lui le sait. Et si j'en ai besoin, il me le donnera. D'ailleurs, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une promesse. C'est une promesse. C'est un constat. C'est une affirmation. Et nous avons lu, nous marchons par la foi. Parce que si nous lisons en Timothée 6, de nouveau, nous voyons que l'amour de l'argent et des biens matériels, eh bien, fait que nous nous égarons de la foi. Il faut croire. Et donc, ce chapitre 6 de la première épître à Timothée nous dit au verset 20, en conclusion, « Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié. » Là, on parle de bien spirituel. Là, on parle d'enseignement. Là, on parle de piété. La piété, c'est garder ce que Dieu nous donne. Garde cet enseignement, mets-le en pratique. Ô Timothée, garde ce qui t'a été confié. Que la grâce soit avec toi.